France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le secret de famille, un patrimoine familial, un roman, des romans. Ce que l'on sait mais que l'on ne sait pas, ce que parfois tout le monde connaît mais croit être seul à savoir, ce que l'on ne dit pas et que l'on pourrait dévoiler, mais ce qui perdrait alors toute son importance une fois claironné. Et qu'arrive-t-il lorsque le secret de famille est oublié? Et le secret normal, individuel, en opposition au secret familial. La matinée des autres, les secrets de famille par Blandine Masson, réalisation Jean-Claude Loiseau, première diffusion sur France Culture le 30 mai 1995.
Je crois qu'un secret de famille, c'est... Enfin, en ce qui me concerne, qui sert certainement à éviter le psychanalyste. C'est-à-dire qu'à force de chercher pourquoi il fallait absolument garder cette chose secrète, on finit par découvrir des choses de sa personne et puis on cherche depuis qu'on le sait, c'est-à-dire en ce qui me concerne depuis que je suis toute petite. Enfin, depuis que j'ai l'âge de raison, comme on dit, c'est-à-dire j'ai dû commencer à connaître cette histoire autour de mes 10 ans. Je pense que c'était même pour mon 10e anniversaire. Enfin, j'en ai qu'un vague souvenir. Mais je crois que j'ai compris que c'était un secret pour mon 10e anniversaire et qu'on a commencé à me mettre en garde à ce moment-là en me disant qu'il fallait que je fasse très très attention parce que c'était très dangereux pour mon avenir de révéler donc les éléments de cette histoire. Voilà, c'est autour de ça. Et fort de ça, j'ai continué bien entendu à garder pour moi les éléments de cette histoire et surtout à savoir ce que représentait le danger qui était derrière cette histoire-là. Le danger étant un mauvais sort qui pourrait m'être jeté par toute révélation de ce secret.
Secret de famille par Blandine Masson.
Et secret de famille, tout ce qui est mystérieux dans nos relations avec ceux qui sont notre famille, c'est-à-dire d'abord avec notre père et notre mère, c'est un premier secret de famille, ça. Parce que personne ne sait clairement ce qui se passe dans cette aventure-là. Ça, c'est obscur. Et puis, on peut remonter après, c'est aussi notre père et notre mère, à chacun de nous, parce que nous en avons, ont vécu aussi la même chose avec leurs propres parents, et ainsi de suite, jusqu'à Adam et Ève. Donc, plus, de façon plus générale, un secret de famille, c'est le secret de la condition humaine. C'est-à-dire le secret de qu'est-ce qui fait que nous transmettent, que nous donnent ceux qui ont été avant nous, quelle relation avons-nous avec eux, sachant que chacun de nous récolte tout le passé, et que tout le passé de sa famille, votre mère vous l'a donné, et votre père vous l'ont donné, dans leur relation ou dans leur absence. Et que c'est avec ça que vous avez affaire. C'est là qu'est le secret véritable. C'est-à-dire celui de quels sont les sentiments qui nous fondent profondément? Quelles sont les illusions, les deuils qui nous habitent?
C'est-à-dire que je les connais, les mauvais sorts, mais ce sont des choses que j'ai déduites. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est lié à la chevelure, par exemple. C'est-à-dire que si je dis, je pourrais perdre mes cheveux. Ça, c'est une donnée possible. Mais il y a une autre donnée qui est encore possible. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas dit, si tu dis, tu vas perdre tes cheveux. Mais on m'a donné suffisamment d'éléments pour que je puisse, moi, à un moment donné, me dire, tiens, je pourrais perdre mes cheveux. Il y a une autre possibilité, c'est lié au déséquilibre. C'est-à-dire, c'est lié à la chute. Et le mauvais sort pourrait être que je tombe de très haut. Et c'est drôle parce que, dans les deux cas, c'est quelque chose que j'ai toujours traîné avec moi, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui tombe beaucoup, qui fait exprès de tomber. Je suis attirée par tout ce qui est vide, Et je suis attirée par les crânes chauves aussi. Donc c'est...
Il est important de souligner que l'histoire d'Œdipe contient un secret de famille. Dans le Œdipe roi de Sophocle, Œdipe est emmené dès sa naissance par le serviteur des parents dans la montagne pour y être dévoré par les bêtes. Et le serviteur a pitié de l'enfant, le dépose chez des bergers. Et Œdipe va croire que les parents adoptifs bergers sont ses vrais parents. Et lorsque l'oracle lui annonce qu'il tuera son père et se mariera avec sa mère, il fuit donc ses parents adoptifs pour aller vers ses parents réels qu'il ignore et qui est le secret de famille, on peut dire, dans Œdipe roi se joue comme de cette façon.
Quand le père du père de mon père avait une tâche difficile à accomplir, il se rendait à un certain endroit dans la forêt, allumait un feu et se plongeait dans une prière silencieuse. Et ce qu'il avait à accomplir se réalisait. Quand plus tard le père de mon père se trouva confronté à la même tâche, il se rendit à ce même endroit dans la forêt et dit: nous ne savons plus allumer le feu, mais nous savons encore dire la prière. Et ce qu'il avait à accomplir se réalisa. Plus tard, mon père...
Rachel, la femme adultère.
L'Espagnol.
Lui aussi alla dans la forêt et dit:
le joueur de tennis.
Nous ne savons plus allumer le feu. Nous ne connaissons plus les mystères de la prière. Mais nous connaissons encore l'endroit précis dans la forêt où cela se passait. Et cela doit suffire. Et ce fut...
Des mères qui se font passer pour la sœur de leur fils, des hommes qui apprennent que leur père n'est pas leur vrai père, des parents qui dissimulent à leurs enfants l'existence d'un de leurs frères, des filles qui retrouvent le père que leur mère leur a toujours caché, des enfants qui se rendent compte que leur père a une seconde famille. Ce sont toutes ces histoires que François Vigouroux a collectionnées dans un livre, Le secret de famille. Nous avons voulu mettre en scène ces petits romans familiaux et suivre François Vigouroux dans sa quête des filiations, entrer avec lui dans les mystères de ses secrets bien gardés et pourtant toujours au bord de se révéler. « Je l'ai toujours su et pourtant je ne le savais pas », dit Gerda dans une pièce de Strindberg. Et elle ajoute « Ça n'arrivait pas jusqu'à moi parce que c'était trop. »
Nous ne savons plus allumer le feu. Nous ne savons plus dire les prières. Nous ne connaissons même plus l'endroit dans la forêt. Mais nous savons encore raconter l'histoire.
À un moment dans le livre, vous dites le secret, c'est le cheminement obscur des passions dans l'histoire des familles, la sécrétion de l'inconscient qui baigne la vie comme une eau épaisse. Bon, je passe quelques lignes. Et vous dites, c'est aussi cela, le secret des familles, un immense chagrin d'amour, une misère de tendresse à en mourir et si profonde que rien jamais ne semble pouvoir la combler. Ça, c'est un petit peu ce qui court aussi.
C'est aussi un des grands thèmes, je crois, de ce livre. Et c'était presque mon intention fondamentale. C'était non pas de démontrer, mais de montrer qu'à l'origine de tous les secrets, et surtout des secrets qui sont ceux que j'aborde dans ce livre et qui sont les secrets du généalogique, c'est-à-dire la transmission, la filiation, la relation entre l'enfant, ses parents, et son degré plus ou moins grand de clarté, ce qui le fonde toujours, ce qui est à son origine dans toutes ces histoires, c'est finalement, on crée un secret pour garder l'amour des gens auxquels on tient. Et les gens auxquels nous tenons le plus, ce sont naturellement les premiers modèles d'amour que nous ayons eus, c'est-à-dire notre père, notre mère, quels qu'ils aient été.
C'est-à-dire qu'on a les gens qui dissimulent un secret auraient toujours peur de perdre quelque chose s'il serait révélé.
Oui, tout à fait. Une des histoires qui est le plus éclairante, je crois, dans ce recueil, c'est celle que j'ai appelée le parâtre, et dans laquelle on voit deux personnes, un couple, qui dissimulent et qui cachent à leur fille la réalité de son origine. C'est-à-dire qu'ils lui font entendre depuis toujours qu'elle n'est pas leur vraie fille, du moins qu'elle est une demi. Elle est simplement la fille d'un premier mariage de la mère. Mmh. Et en fait, on lui fait croire que son père n'est pas son vrai père. C'est un mensonge. Donc elle vit toute sa vie avec l'idée que son père, c'est pas son père. Et en fait, il est son père. Il cache le fait qu'il est son père. C'est presque un secret à l'envers de ce qu'on a d'ordinaire. Et on voit à travers ça comment les parents qui commettent là une véritable forfaiture, enfin, c'est un mensonge terrifiant si on y songe, de nier la vérité de la relation comme ça, les deux parents obéissent pour des raisons de convention sociale. Ça voudrait dire que la mère a fauté en dehors, à un certain moment, ou hors mariage. Mais ils gâchent ça pour ne pas déplaire à leurs propres parents, à leur propre famille, à leur père et à leur mère respectifs. C'est-à-dire qu'il y a toujours trois niveaux qui sont en cause dans un secret. Il y a l'enfant qu'il concerne, ses parents, et puis les parents des parents, qui agissent à travers leur milieu, à travers leurs idées. Et pour quand on cache une faute, c'est généralement pour ne pas être puni par quelqu'un. Et si on ne veut pas être puni, c'est qu'on a peur de perdre l'amour, de quitter l'amour de ceux qu'on doit aimer et qui nous aiment, sans lesquels on mourrait, sans l'amour desquels on mourrait.
Et c'est un petit peu comme dans les énigmes policières, on se demande, bon, la question serait à qui profite le crime, et là on peut se dire à qui profite le secret. Et souvent, les parents justifient le secret en disant c'est pour protéger les enfants. C'est certainement pas comme ça que ça se passe.
Non, c'est malheureusement, et là c'est une vision plus pessimiste que je vais vous donner, mais je pense que c'est pour se protéger eux d'abord. Et que si on ne veut pas faire la lumière, c'est évidemment parce que la lumière serait blessante et obligerait à placer l'amour à un autre endroit, ou placer la relation d'une façon plus claire, plus simple. Mais en faisant de l'obscur, on se cache, on se met la tête dans le sable, et c'est effectivement moins douloureux. Apparemment, ceci dit, on y étouffe. Et c'est ça le problème du secret. C'est que ça engendre des drames beaucoup plus grands.
Cet enfant que je t'avais fait, pas le premier, mais le second. Te souviens-tu? Où l'as-tu mis? Qu'en as-tu fait? Celui dont j'aimais tant le nom. Te souviens-tu?
Mais les secrets de famille, c'est très étrange parce que je crois qu'on apprend très tard que c'est un secret. C'est-à-dire que tant que ça n'a pas d'importance et qu'on est une petite fille, ce sont des histoires qui planent et on sait qu'on ne va rien révéler parce que même ça pourrait être. C'est peut-être même une fausse histoire, ce secret. On n'en sait rien. Hein. Et donc, pour une petite fille, c'est une histoire, c'est une belle histoire, un point, c'est tout. Puis on se rend compte, en grandissant, que cette histoire a eu quelques conséquences. Donc les grands-mères, et ma grand-mère et ma mère ont dû s'en rendre compte, puisqu'à un moment donné, il a fallu arriver à me dire que je ne dois pas en parler. Enfin, ça, c'est pas ma grand-mère, c'est ma mère qui m'a dit, ça, il faut le garder pour toi. Mais c'est arrivé au moment où je commençais donc mon adolescence, au moment où effectivement je pouvais comprendre que derrière cette jolie histoire, peut-être qu'il y avait quelque chose qu'il fallait préserver. C'est un peu... Ce que j'aime dans les secrets de famille, c'est que c'est une racine familiale, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est un lien qui est vraiment très fort entre les êtres. Je crois que c'est pour ça que même si on m'avait pas dit qu'il fallait pas le dire, au risque d'être complètement, d'avoir toutes les malédictions de la terre qui tombent sur mes épaules, je l'aurais jamais dit parce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est un patrimoine familial. C'est quelque chose de, c'est pour ça que je dis, ça m'a évité le psychanalyste. C'est quelque chose qui aide à construire. Et pour une famille comme la mienne qui n'en est pas une, c'est-à-dire qui s'est quasiment perdue en partie au moment de la guerre d'Espagne, ma mère ne connaît pas son père, enfin il y a comme ça de grands pans de vide, c'est comme ça une histoire forte qui en a tramé d'autres, parce qu'autour d'un secret se trame beaucoup de choses, et pour ça, tout ça, ce sont des racines qui me paraissent vraiment très très importante à préserver.
C'est-à-dire que la connaissance depuis l'enfance d'un tel secret, de choses qu'il ne faut pas dévoiler, a presque structuré une façon d'être aussi.
Ah oui, complètement. Quand j'étais petite, je disais, moi j'ai un secret, mais je ne vous le dirai pas. Et j'adorais dire cette phrase. Moi, j'ai un secret, mais je ne vous le dirai pas. Comme si j'étais porteuse, comme ça, d'une parole universelle, mais presque divine, quoi. C'est moi, j'ai quelque chose que je ne révélerai pas et qui est fondamental, bien entendu. Et je disais ça, mais je m'en gardais. Après, bien entendu, ça a évolué autrement. Mais je disais, il y avait cette phrase qui revenait souvent.
Et il n'y a jamais eu la peur aussi que ça puisse échapper à un moment ?
Ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Mais bon, je m'arrange toujours. Des fois, je suis dans le désir de le dire. Je suis terriblement dans le désir de... Bah, entre autres, à mon mari, une fois, il a presque su. Et puis, j'ai rattrapé au dernier moment. Mais il ne le saura jamais maintenant. C'est d'une évidence absolue pour moi. Mais, et c'est mieux parce que je sais pas, quand je dis ça à voir, c'est ma part cachée d'amour, quoi, je crois. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Je crois que ça fait partie complètement de ce qui, du trouble dans la relation aussi, quoi. C'est aussi un élément du trouble dans la relation amoureuse qui fait que le révéler, c'est quelque part perdre ce trouble-là, quoi.
Oui, donc
brièvement les choses que vous savez de l'enfance de votre père, jusqu'à l'âge adulte.
L'enfance de mon père s'est passée, je vous l'ai dit, dans ce sud-ouest, sud-ouest verdoyant, mais aussi dans des grandes villes, entre Toulouse et Bordeaux.
Vous savez, de sa petite histoire, de psychologiquement, comment il est à l'école, est-ce qu'il y a des maladies, des choses comme ça.
C'est un enfant très timide, très, très, très secret, très timide. Renfermé, rêveur, qui joue beaucoup chez lui avec des soldats de plomb, mais qui vit beaucoup dans cet univers de femmes, très très entouré par ces deux maîtresses-femmes, sans doute de manière différente que sont la mère et la grand-mère, sans doute plus maîtresse-femme réellement, prenant les décisions, chef de famille, chef de troupe, et la mère. Je vous dis, vivant un peu peut-être comme une Madame Bovary, mais glorieuse, assez avec des vêtements, des vêtements plus chers, tentant d'avoir des relations dans des milieux, comme je vous le disais, un peu supérieurs à son propre milieu. Aimant fréquenter la bourgeoisie, etc. Mais très très proche de son fils, l'entourant énormément, l'entourant physiquement, enfin, je veux dire, le prenant dans ses bras. Mon père insiste toujours beaucoup sur la relation comme ça, très fusionnelle qu'il a eue avec sa mère. Alors, une chose très importante, c'est qu'il raconte même actuellement tout le temps, c'est que mon père actuellement est soumis à des angoisses terribles, en vieillissant, les dernières années là, de sa vie. C'est devenu quasiment névrotique, même pas quasiment, c'est devenu très névrotique. Il ne peut pas supporter que les gens qu'il aime s'éloignent de lui. Et Clarisse, en particulier, peut à peine descendre chercher le pain sans qu'au bout de 5 minutes, mon père descende comme un fou à la chercher si elle n'est pas revenue. Quand il nous raconte actuellement que quand il ouvre la porte, il pense toujours qu'elle va ne pas être là. Et il me dit lui-même, il en est très conscient, que ça, c'était des angoisses qu'il avait quand il était petit. C'est-à-dire qu'il supportait pas la moindre absence de sa mère et la moindre disparition de sa mère. Il était véritablement dans un rapport totalement inclus, comme ça, dans sa mère.
Mon mari est mort à la guerre, je venais d'avoir 18 ans, je fus à lui seul tout entière de son vivant. Mais le jour de la fête, on me compte à fleurette, peut-être qu'on n'aurait pas pu si je n'avais pas tant bu. Comme j'étais couché sur le ciment, on a pu facilement devenir mon amant. Si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver, tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure.
Dans la restitution que vous faites, quand nous on lit ces histoires-là, finalement vous arrivez à entremêler votre imaginaire plus ou moins, mais enfin, oui, en tout cas, la façon dont ça fonctionne dans votre tête, et puis ce que vous ont raconté les gens. Or, vous dites aussi que, par exemple, vous ne vérifiez jamais la véracité des faits. Et donc, il y a d'autant moins à vérifier qu'en plus, ce qui est vrai peut toujours être plus ou moins vrai selon la façon dont vous l'avez retenu, finalement. Mais qu'est-ce qui vous... Quand vous faites ça, c'est quoi, au fond de vous, ce qui vous tire, en fait, vers ça?
C'est créer quelque chose. C'est-à-dire, c'est peut-être un peu vampirique. Et c'est en cela, peut-être, que c'est littéraire. C'est-à-dire que je crois que la chose littéraire, c'est quelque chose qu'on tire de soi, bien sûr, puisqu'on ne retrouvera ailleurs que ce qu'on a en soi. Mais on va se servir du matériel, ou des matériaux, ou des personnes qui sont à l'extérieur pour leur faire exprimer, faire surgir l'essence de la littérature, c'est-à-dire une autre réalité que celle qui est donnée immédiatement à voir. Et avec Le secret de famille, dans ces histoires-là racontées, j'essaie, moi, de montrer une autre réalité possible. Mais c'est la mienne.
Mais en fait, c'est un matériau d'écriture pour vous romancier, quoi, en fait.
Oui, finalement, c'est effectivement une œuvre romanesque. Je n'ai pas besoin... La vérité n'existe pas là-dedans. Il y a ce que j'en perçois et ce que chacun en perçoit. Il y en a plusieurs possibles. Par rapport à cette histoire, telle histoire prise dans ce récit, je vais prendre celle de l'officier sans loi, par exemple, 1000 personnes peuvent raconter de 1000 façons différentes cette histoire.
Si vous faites écrire un peu les histoires par la réalité.
Oui, le sujet, l'histoire. Je n'ai aucune imagination, on pouvait dire ça aussi autrement.
Il n'y en a pas. Vous pourriez dire ça? Non.
Ah, je pourrais dire que je n'ai aucune imagination, mais qu'à partir de quelque chose qui m'est donné réellement, je fais se développer ce que je perçois, ce que je pense et ce qui est en moi, c'est-à-dire mon imaginaire créatif. Mais moi, je n'imagine pas, a priori, je suis incapable d'écrire à partir de rien. Je ne sais pas faire. Et là, ce qui se passe, c'est que je recueille un matériau brut. Et ensuite, il va traverser, alors, vous parliez de méthode, effectivement, une série d'élaborations. Ça a été écrit d'abord sous forme d'un roman policier et d'un Sherlock Holmes qui cherchait les coupables de ses différentes aventures et qui initiait en même temps un docteur Watson au mystère de l'inconscient. Ensuite, c'est redevenu des nouvelles. Ensuite, ça a été réécrit. Je veux dire qu'on ne peut pas écrire à l'extérieur. On ne peut pas écrire sur des histoires de secrets de famille si on ne raconte pas sa propre histoire de secret. L'histoire des filles fleurs me touche et m'a beaucoup émue, mais en tant que personne, d'une part dans la relation avec ces femmes ou avec cette femme directement, mais après, je l'ai transposée dans une région qui me concernait, je lui ai donné la couleur qui était la mienne et j'y ai vu apparaître des personnages réels de mon enfance, très précisément. Et à travers eux, ce que j'essaie de dire, c'est ce que Sherlock Holmes essaierait de dire, s'il était romancier, c'est il n'y a pas le coupable n'est jamais celui qu'on croit. Il n'y a pas un coupable comme ça. Ça ne se ferme pas. C'est un Sherlock Holmes différent auquel nous avons affaire maintenant, je crois. C'est il n'y a plus le coupable habituel. L'histoire ne se ferme pas. Et je ne dis pas que j'y réussis, mais chaque histoire finalement ouvre sur un autre mystère extraordinaire des deux côtés. Comment en est-on arrivé là? Comment, si on prend l'histoire par exemple, du faux frère, comment cette femme a pu oser imposer à son fils d'être la mère de son propre fils, c'est-à-dire de commettre un inceste symbolique fou, et comment ils vont se débrouiller après? Il y a de quoi écrire une vingtaine de romans avant et après.
Ah, ça alors, mon père n'a jamais vécu sans une femme. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, je crois qu'il aurait beaucoup aimé garder les deux, à vrai dire. Ça, c'est certain. Il aurait beaucoup aimé garder les deux. Ouais. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il n'a pas osé, à l'époque, il n'a pas osé l'avouer. Puis pour ma mère, c'était impossible, mais certainement, vous avez raison, oui.
Une petite chose de sa vie d'adolescent, de sa vie que vous savez. Des maladies, est-ce qu'il y a eu des choses?
Il était plutôt de santé fragile, paraît-il, quand il était petit, mais moi je crois qu'il a jamais eu de... Enfin, il ne parle pas dans ses souvenirs, par exemple, de maladies sérieuses. Et je crois que la fragilité de mon père était plutôt entretenue par les femmes qui l'entourait de laine et de sentiments, j'allais dire. Autant de laine que de sentiments, ou inversement. Il y a plein d'histoires drôles de son enfance qui sont racontées dans ses souvenirs, qui m'a à la fois raconté, que j'ai retrouvé dans ses souvenirs, par exemple, dans cette timidité, dans cette innocence qui était, ça il insiste beaucoup sur le fait que sa mère l'a protégée aussi terriblement, et donc son innocence, c'était par exemple qu'il connaissait rien des choses de l'amour, et vers 10 ou 11 ans, il y a une histoire très drôle qui est qu'il avait, sur la base d'un jeu avec ses camarades, il avait été poussé à aller demander dans une pharmacie des capotes anglaises, genre de challenge comme ça. Sauf que lui, il ne savait pas du tout ce que c'était que des capotes anglaises. Et donc, il a demandé des capotes anglaises, de quelle grosseur, lui demande le pharmacien, etc. etc. Et je lui ai dit, mais c'est pour mettre à mon doigt. Je me suis fait mal, etc. Donc tout ça était d'un petit enfant hyper protégé par sa mère et sa grand-mère, et donc est arrivé effectivement. Il allait à Luchon pendant les vacances. Il faisait des courses en montagne. Il a rencontré ma mère assez vite, je vous l'ai dit, assez tôt, à 18 ans, et voilà, ils ont été ensemble tout de suite.
Qu'est-ce que vous savez de Georges, de son père légal?
Alors Georges, ce que j'en sais par mon père, c'est que c'était un homme, et ce que j'en sais par mes souvenirs, d'ailleurs, ça corrobore tout à fait ça, c'était un homme d'une grande bonté, extrêmement droit, d'une grande bonté, d'une grande... Il était grand, il était sec, grand, noble, comme ça, toujours avec un merveilleux sourire... D'une bonté extrême, vraiment, avec ses petits-enfants, tendres et racontant des histoires. Et bon. Et puis, c'était quelqu'un qui a toujours tout assumé, qui a été follement amoureux de ma grand-mère, de sa femme. Mais je vous dis, en la voyant comme une étoile...
Vous pensez qu'il n'a pu ne pas se rendre compte de décalage de... sur le livret de famille de moi, etc., que ça a pu être... Vous n'avez pas d'idée là-dessus?
Je sais que c'était encore possible, enfin, entre un enfant prématuré, un peu... ça s'est joué... Aujourd'hui, ça ne passerait peut-être plus, mais à l'époque, ça pouvait se jouer comme tel.
Vous avez des informations encore sur les générations qui sont au-dessus, c'est-à-dire... La mère ou les parents de Marie, très
non.
vite comme ça.
Non, moi et non.
Les
mon parents, père, c'est tout ça, moi non.
Les parents de,
non.
de Justin.
Non. Non, tout ça est consigné dans les livres, mais je m'en souviens même pas. Je les ai lus, hein, pourtant. Ça m'importe absolument pas. Voilà.
Mon amant est mort à la guerre. Je venais d'avoir 19 ans. Je fus à lui seul tout entière de son vivant. Mais quand j'ai appris ça, je ne sais ce qui se passa. Je ne sais quelle folie, je ne sais quelle furie. En un jour, je pris 3 amants et puis encore autant dans le même laps de temps. Si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver. Tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure.
Aussi longtemps que personne n'avait connu son secret, il s'était cru le moins égoïste des hommes parce qu'il portait seul son fardeau et endurait en silence cette perpétuelle angoisse. Se retenant d'en parler, il ne laissait entrevoir à personne les conséquences qu'elle avait sur son existence et n'exigeait des autres qu'une indulgence particulière, tout en accordant lui-même toutes celles qu'on lui demandait. Il n'avait infligé à personne l'embarras d'entrer dans l'intimité d'un homme torturé, bien que parfois il eût éprouvé de curieuses tentations en entendant les gens lui parler de leur inquiétude. S'ils avaient été aussi inquiets que lui, lui qui dans sa vie n'avait jamais connu une seule heure de paix, ils auraient su ce qu'était l'inquiétude. Mais il ne lui appartenait pas de leur expliquer, et il préférait les écouter avec civilité. C'est pourquoi il passait pour un homme courtois mais terne. C'est pourquoi, surtout, il pouvait se flatter à la face d'un monde cupide, d'avoir la décence et peut-être même la sublime élégance de la générosité. Henry James.
Hervé Gauville, vous avez travaillé sur l'ensemble, un peu, l'œuvre de Henry James, et on peut dire que... Cette œuvre est fondée en partie autour de l'idée du secret.
Oui, mais je crois qu'elle est même fondée complètement sur cette idée-là. Je crois que c'est l'élément moteur de cette œuvre. Et ça renvoie d'abord à une conception de la littérature qui était relativement fréquente au XIXe siècle. On trouve aussi, soit dans le roman noir ou dans l'ancêtre du roman policier, un goût du secret, de l'énigme. Et notamment chez Edgar Allan Poe, avec l'histoire notamment de la lettre volée dont Lacan a tiré grand profit. Mais le secret tel qu'il apparaît chez James a pas du tout la même tournure, la même allure. Il renvoie pas du tout à la même fonction, par exemple, que chez Poe. Il y a dans le secret de James quelque chose de... Alors, peut-être qu'il s'origine d'abord dans un élément biographique. En tout cas, il a été mentionné par le principal biographe de James, qui parle d'une obscure blessure. On ne sait pas si l'expression est de James lui-même ou si elle est de son biographe, et qui se rapporte à un épisode de l'adolescence de l'écrivain, au cours duquel il s'est blessé. Il se blesse dans des circonstances assez oedipiennes parce que son père avait été victime d'un accident au cours d'un incendie, et à nouveau un incendie éclate et il doit avoir 16 ou 17 ans, Henry James se précipite un petit peu pour refaire la même chose que le papa et tombe et se blesse, mais apparemment se blesse au dos assez gravement. Il va voir un médecin et pour James c'est resté quelque chose de l'ordre d'une forme d'impuissance. En tout cas, quand il évoque cette obscure blessure, c'est toujours en termes d'incapacité, une incapacité assez nuageuse, c'est rarement précisé, mais enfin, de façon telle que d'autres auteurs, en particulier des auteurs américains comme Hemingway, ont pris prétexte de cette anecdote, de cette péripétie dans la jeunesse de James pour dire que c'était carrément un impuissant sexuel. Et alors, il y a un vrai mystère, je ne sais pas s'il est absolument passionnant, sur la sexualité de James, parce qu'on ne lui connaît de façon certaine aucune liaison. On sait que c'était un homme qui était très courtisé par les femmes. On dit même que l'une des femmes qu'il a le plus aimé s'est suicidée pour lui en sautant d'un balcon à Venise. Enfin, pour lui, c'est ce qui reste obscur, mais enfin, toujours est-il qu'elle est tombée comme ça dans la rue à Venise. Et elle est morte, ce qui a considérablement affecté Henry James. Bon, ça c'est pour dire un petit peu qu'il y a un flou dans la biographie qui renvoie à une certaine forme de flou dans l'œuvre qui est autour du secret. Alors ce secret, il a donné prétexte à pas mal d'interprétations. La plus courante ou celle qui revenait le plus souvent, la plus récurrente, c'est celle d'associer le secret tel qu'il est développé chez James à la nature même de la littérature. C'est dire que le secret dont il parle, c'est simplement, c'est l'énigme ou le mystère du verbe. Donc ça renvoie, c'est une vision un peu malarméenne, ça renvoie à la page blanche et il y aurait une opération alchimique ou mystérieuse qui ferait que le texte apparaît. Bon, et donc le secret jamesien serait la métaphore de ce type d'énigme. Il y a ce type d'interprétation. Il y en a un autre qui est que le secret des nouvelles de James, tel qu'il est développé dans la plupart de ses nouvelles, est lié à la phrase elle-même, au déroulement, à l'écriture, mais comme considéré comme work in progress. C'est-à-dire que le secret, c'est simplement le fait de développer le texte et de le mener jusqu'à son terme. Il n'y a pas de secret extérieur au texte, il est simplement dans le continuum des phrases et des chapitres. Donc c'est deux conceptions qui sont... La première indiquerait qu'il y a un amont, le secret sera en amont au moment de l'origine du texte, et la deuxième renverrait plutôt à une contemporanéité, une simultanéité avec le travail d'écriture. Alors moi je pense qu'il y a, en particulier à la lecture ou à la relecture de certains textes, qu'il y a une autre conception possible qui serait que le secret, en tout cas tel que conçu par James, serait renvoyé du côté de la lecture. C'est-à-dire qu'il serait non pas, si on le considère spatialement, non pas comme un en deçà de l'écriture, non pas comme un mouvement qui accompagne l'écriture, mais un au-delà. Alors évidemment, à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on ne peut plus maîtriser. Et effectivement, on ne peut pas non plus trouver de quel secret il s'agit, sauf à décider soi-même comme lecteur qu'on a la clé de l'énigme. Alors, je voudrais lire un petit passage dans l'image dans le tapis. Donc, c'est l'écrivain qui parle. « Tous mes efforts, pour être clair, quand j'écris, vous mettent sur la piste. Chaque page, chaque phrase, chaque mot sont autant d'indices. La chose est aussi évidente que l'oiseau dans sa cage, l'appât d'un hameçon ou le morceau de fromage d'un piège à souris. Vous le trouverez dans chacun de mes livres comme la main dans un gant. Il est l'âme de chaque phrase, la raison du choix de chaque mot, l'explication de la place de chaque virgule. » Bon, évidemment, il n'y a pas plus précis. Alors juste à côté, un autre passage qui indique l'importance de ce secret, c'est toujours le même personnage qui parle. « Sachez que si ma grande affaire est un secret, c'est seulement parce que ce secret est né malgré lui, par le fait même de cet événement extraordinaire qu'il reste incompris. Non seulement je n'ai pas fait le moindre effort dans ce but, mais je n'avais même pas imaginé que cela arriverait. Sinon, je n'aurais jamais eu le cœur de continuer. En réalité, je n'en ai pris conscience qu'au fur et à mesure, et entre-temps, l'œuvre était achevée. »
Tous les six sont morts à la guerre. À la guerre que font mes amants. Bientôt chez nous, il n'y aura plus guerre d'hommes vivants. Mais quand un seul restera, j'épouserai celui-là. On sera enfin tranquille jusqu'au jour où nos filles en seront aussi au moment de prendre des amants comme leur pauvre maman. Si ça doit arriver, c'est que ça doit arriver. Tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure.
Quand vous dites qu'il y a une préscience du secret, c'est-à-dire que très souvent, c'est, par exemple dans les histoires du livre, elles sont révélées, il y a toujours une sorte de hasard qui intervient, mais vous dites en même temps que les gens qui reçoivent ce secret sont toujours prêts à ce moment-là à le recevoir, à l'entendre.
Oui, il n'y a pas de hasard.
Voilà, ce serait qu'il n'y aurait pas... Tout le monde le raconte sous forme de principe, hasard, mais il n'y aurait pas de hasard.
Il n'y a absolument pas l'ombre d'un hasard, ce qui n'exclut pas la liberté de chacun, mais les choses s'emboîtent, les relations psychologiques entre les personnes s'emboîtent les unes les autres de façon extrêmement précise, que nous ne connaissons pas bien et mal. Mais la pression du secret, ça c'est une autre idée que j'essayais de faire passer à travers le livre. C'est finalement nos vies, peut-être, ou les vies de tous les gens qui ont des secrets, consistent à éclairer une part de quelque chose qui est resté obscur et qui nous entrave.
C'est une vision très optimiste.
C'est relativement optimiste, oui, bien que...
Ce qui n'est pas toujours le cas, je veux dire, quand des gens réfléchissent à la situation de sa famille.
Il est dramatique.
Ça peut, c'est souvent, oui, sous le
bord de la tragédie. Il est toujours tragique et dramatique. Il a toujours de la souffrance terrible à l'origine et il produit de la souffrance. Et cependant, je vois mal qu'à travers l'histoire de l'humanité, un progrès se fasse sans souffrance, qu'il soit historique, qu'il soit philosophique. C'est toujours à travers des deuils, des abandons et puis des découvertes qui ne sont pas agréables et qui sont tragiques.
Qu'il y avait quelque chose qui m'échappait et qui était obscur. Mais je crois même que le travail psychanalytique que j'ai entrepris il y a 16 ans était motivé par ce besoin de comprendre quelque chose qui m'échappait. Mais plus récemment, à cause de deuils répétés dans ma famille, j'ai vraiment voulu essayer de comprendre ce qui se jouait. J'avais une question, comment se fait-il que trois de mes frères et sœurs soient décédés, et surtout que je retrouvais dans la génération de ma mère trois deuils également. Donc c'est ce que j'ai voulu trouver. Je cherchais, je voulais refaire l'histoire de ma famille pour essayer de comprendre comment des décès avaient pu se répéter comme ça. Donc j'ai cherché en allant, en interrogeant et en allant dans les villages, regarder les registres d'état civil pour essayer de remonter le plus loin possible pour reconstituer l'histoire de ma famille. J'ai commencé par une branche, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. En fait, j'ai trouvé un secret, plusieurs secrets auxquels je ne m'attendais pas du tout. Et d'ailleurs, je ne vois pas aujourd'hui le lien avec ce qui me motivait au départ, c'est-à-dire essayer de comprendre les décès. Ça, je n'ai pas trouvé de lien pour l'instant. Peut-être y en a-t-il un, mais je vais travailler à cette recherche maintenant. Mais c'est pas sûr d'ailleurs qu'il y en ait un. Mais ce que j'ai trouvé, un secret, trois secrets de filiation. Et ça, je m'attendais pas du tout à ça, et je l'ai trouvé sur les registres d'état civil. Donc, pour être clair, secret de filiation, j'ai trouvé chez mes ancêtres trois géniteurs qui sont inconnus, voilà, et qui ont donc laissé la mère et l'enfant seuls.
Concrètement, ça veut dire que c'était, par exemple, ça concernait votre père et vous avez dû lui annoncer cette nouvelle. Qu'est-ce
oui.
qui se passe à ce moment-là?
Oui. Je crois que c'était difficile pour lui à vivre parce que tout ce en quoi il avait cru sur ses racines a été ébranlé. Oui, je crois que ça a été difficile pour lui. Il a bien mis quelques mois à accepter et à se faire à cette idée.
On a peur de le dire à ce moment-là ou on le dit comme ça facilement? Est-ce qu'on s'interroge sur la nécessité de le dire?
Moi, je ne m'interrogeais pas sur la nécessité de le dire, parce que si j'ai fait tout ça, c'est bien pour que les choses soient claires, dévoilées, et qu'il n'y ait plus de non-dits, qu'il n'y ait plus de secrets. Donc ça, moi, je ne peux pas garder un secret de cette importance, surtout si je pense qu'il y a des répétitions dès qu'il y a secret. Donc pour moi, c'était impossible de perpétuer le secret. Bon, maintenant, l'annoncer à mon père et y compris à ma mère, c'était pas très facile. J'ai mis les formes et j'ai été doucement. Je voulais pas non plus révéler des choses de manière brutale. Et je voulais pas non plus être. Je crois que c'est important de dire la vérité, mais il y a un moment pour la dire. Faut pas que ça soit trop tôt et puis ni trop tard.
Dans votre, sans indiscrétion, mais dans votre famille, il y avait une sorte de répétition des prénoms ou de la terminaison des noms des prénoms. Et vous étiez la seule qui avait un prénom différent des autres de cette famille.
Oui.
Et c'est ça un peu qui vous a aussi poussé.
Peut-être. Oui, je ne peux pas l'affirmer, mais c'est possible que ça soit ça. C'est ce qui me différenciait, parce que j'avais un prénom différent. Bon, c'est possible.
Et la façon dont, quand vous en parliez comme ça, quand vous dites que vous avez une sorte d'euphorie, en fait, en parler, c'était... Les gens entendaient ça comment? Les gens à qui vous en parliez?
Faudrait leur demander. Je crois que c'était pas perçu par eux comme aussi important que pour moi. Voilà. Pour moi, c'était l'aboutissement et c'était ma recherche, donc forcément c'était très intense. Pour mes frères et sœurs, ça a été important. Puis pour mon mari, par exemple, c'était pas. Il trouvait ça assez banal finalement. Je me trouvais moi avec mon histoire très forte à en parler beaucoup, à essayer de comprendre les implications, tout ce qui s'imbriquait autour de ça. Et lui, je l'ai trouvé peu réceptif et trouvait ça tout à fait banal. Disons au 19e siècle, ça pouvait pas être autrement. Enfin, en rationalisant les choses, alors que moi je les vivais au niveau émotionnel.
Et est-ce que vous sentiez aussi cette espèce de paradoxe du secret où finalement il y avait on sait, on sait pas, ça se dévoile et en même temps ça reste caché, quelque chose.
Je l'ai pas compris tout de suite. Ça n'est que quelques mois après, justement, en essayant de lire les ouvrages plus théorique sur le secret de famille que j'ai, et surtout dans ma pratique, alors là, professionnelle, que je me suis aperçue de ce qu'on appelait du paradoxe du secret, c'est-à-dire que il ne doit pas être révélé, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus un secret, mais il doit se montrer, il doit se répéter, parce que sinon, il est oublié et c'est plus un secret non plus. Donc c'est ça ce paradoxe. Et c'est donc quand j'ai compris ça, ça m'a beaucoup aidé dans ma pratique professionnelle à entendre qu'il pouvait y avoir des secrets dans l'histoire de mes patients, et donc à être très à l'écoute de ça, très vigilante, parce que justement, quand il y a secret, il est presque là devant nous. Si on est à l'écoute de ça et réceptif à cette notion-là, eh bien, ça devient très clair. Le secret, il est là, sur la table, comme l'enveloppe, comme la lettre là, d'Edgar Poe était sur la cheminée. Il est là, et il continue à agir, et c'est finalement très clair et très limpide.
Je ne savais pas. Mais c'est vrai que quand j'ai appris, ça m'a... Bon, ça m'a fait peut-être comprendre un certain nombre de choses d'inconnus, de questionnements, de flou, hein, qui étaient entretenus depuis longtemps, quoi. Ou certainement, bon, j'avais dû me débrouiller malgré moi pour ne pas regarder les choses, ou pas me souvenir, ou pas... Ça a dû être une... Il y avoir une complicité quelque part dans le non-dit pour laisser tout ça dans l'ombre, quoi.
Par exemple, est-ce que tu posais des questions à tes parents sur la façon dont ils s'étaient rencontrés ou sur l'enfance, tout ça?
Et non, jamais. Jamais. Mais c'est pour ça, justement, qu'il devait y avoir quelque chose d'un peu bizarre, quoi. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose qu'il fallait... dont confusément, je devais sentir que... qu'il fallait pas parler, que c'était un tabou, que c'était quelque chose de qui était en dehors de l'existence et du fonctionnement normal, quoi. Donc il valait mieux penser à autre chose, passer.
Mais elle a tenu avec des menaces, enfin, je veux dire, s'il y avait quand même des menaces de mort sur le fait d'en parler, non, quelque chose comme ça.
Non, mais en plus, elle a monté tout un scénario, toute une comédie, organisé les choses comme si c'était complètement vital, et en se racontant sur elle-même une histoire, quoi, en se disant que c'était fondamental dans sa vie, alors qu'en fait, peut-être que même au fond d'elle-même, elle savait que c'était pas vital, mais c'était une façade qu'elle a créée, qu'elle, toute pièce, et elle a conditionné tout le monde autour d'elle pour que ça reste, ça ne se lézarde pas, que personne ne craque, avec, oui, une espèce de chantage.
C'est le chantage, c'était quoi?
Ben, je ne sais pas très bien, le chantage, ça pouvait être « je vais me suicider » ou des idioties pareilles, quoi.
Et en fait, tout le monde le savait.
De l'excès. Ah, tout le monde le savait, oui. Après les langues se sont déliées. Les tantes, les petits cousins. Et tout le monde nous a dit, bah oui, on aurait bien aimé vous le dire, mais on ne pouvait pas. Et on pensait que c'était idiot, mais c'était tellement... l'attente était tellement violente par rapport à ça qu'on ne pouvait rien faire, quoi. C'est une histoire folle, un peu complètement délirante, enfin, finalement, qui était de notre âge. Enfin, c'était une histoire de notre âge. Encore que peut-être que maintenant, ça peut se faire aussi, mais...
On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on a
sait rien. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Dans les années 50, Lucien Geneste dirigeait une très ancienne fabrique de biscuits, mais plus soucieux de la qualité de sa propre vie, consacrée pour l'essentiel à la pêche et à la chasse, que des honneurs ou des succès économiques, il laissait à sa femme Amélie, de 5 ans plus âgée que lui, le soin de diriger l'affaire. Les Genestes eurent un unique enfant, René, qui naquit en 1950 et sur lequel Amélie reporta tout l'amour dont elle était capable. Elle l'entoura d'une attention et d'une protection farouche, jusqu'à l'étouffer.
Il n'aurait qu'à aimer sa mère et la biscuiterie et à vivre entre elles deux l'essentiel de sa vie. Naturellement, il épouserait un jour quelque jeune fille de la bonne société bordelaise qui lui donnerait des enfants. Amélie se voyait déjà grand-mère, reconnue dans tout le département de la Gironde et même au-delà pour sa réussite sociale, économique et maternelle. Le temps passait, le biscuit se vendait, Lucien chassait, René grandissait. En 1970, il avait 20 ans et poursuivait de vagues études à Bordeaux quand il fit la connaissance de Josette, dont le père était un petit entrepreneur de maçonnerie dans la ville voisine de Bazas. Amélie vit d'un très mauvais œil les fréquentations de son fils, car elle avait pour lui de bien plus hautes ambitions. Aussi, devint-elle, lorsqu'il fut entre les deux jeunes gens en question de mariage, folle furieuse. « Moi, vivante, tu n'épouseras jamais cette fille. Elle ferait ton malheur et le mien, tu peux me croire. Et d'ailleurs, on ne sait même pas qui est sa mère. »
Il arriva ce qui devait arriver. Josette fut enceinte et elle le dissimula le plus longtemps qu'elle put. La situation était banale. Elle allait prendre un tour qui l'était moins. Dès qu'elle apprit la nouvelle, désespérée, Amélie imaginait un étrange scénario. Elle obtint d'abord de son fils qu'il renonce à aimer et à épouser Josette. Ce fut chose facile car il ne pouvait s'opposer au désir de sa mère. Comme il était trop tard pour songer à un avortement en Suisse ou en Angleterre, elle fit disparaître Josette et l'installa à Paris, dans un petit appartement du 17e arrondissement, et René resta à Langon. 3 mois environ avant la date prévue pour l'accouchement, Amélie disparut brusquement et la rumeur courut qu'elle avait dû être hospitalisée à Paris. En fait, elle se trouvait aux côtés de la pauvre Josette. Elle attendait la naissance de l'enfant. Elle avait mis son fils et son mari au courant de son projet et leur avait fait solennellement jurer de ne jamais rien révéler. Le moment venu, elle accompagna Josette à la clinique. Comment se débrouilla-t-elle alors pour parvenir à ses fins? Nul ne le sait.
Le petit Jean-Paul vint au monde et Amélie parvint à le faire déclarer à l'état civil comme son propre enfant. Fils de Lucien Geneste et d'Amélie Geneste, née Cazot, son épouse. René devenait ainsi le frère aîné de son propre fils. Celui-ci avait ses grands-parents pour parents, et il portait le même nom que son vrai père. Tout restait donc dans la famille. Il a aujourd'hui 20 ans, il ne sait rien, personne ne saura jamais rien.
À propos du livre de François Vigouroux, il est très intéressant de lire en particulier le petit chapitre sur le faux frère. Où l'on voit que...
Jean-Pierre Caillot, psychanalyste.
Un père devient le frère de son fils et que la grand-mère paternelle devient la mère de son fils, évidemment, et de son petit-fils du même coup.
Elle aurait deux enfants, en fait.
Alors, elle aurait deux enfants, elle, et au lieu d'avoir 3 générations... On a 2 générations, celle de la grand-mère-mère et celle du père-frère aîné, le frère étant le frère aîné. Alors on voit que d'emblée, à travers cette histoire, que le secret de famille, que l'on peut dire pathologique, qui intéresse l'ensemble de la famille, touche les origines, modifie la filiation. Et d'emblée, on voit par exemple dans l'histoire du faux frère que l'enfant, donc le petit-fils de la grand-mère, va prendre sa grand-mère pour sa mère et
son père pour son frère.
Et son père, voilà, et son père pour son frère. Donc, de très grandes modifications et où les origines sont brouillées, on peut donc dire qu'un secret de famille pathologique, c'est un secret non secret. Qu'il a une structure paradoxale, qu'il appartient non pas à un registre oedipien, comme on dit en psychanalyse, mais à un registre incestueux qu'il est anti-originaire et on pourrait ajouter anti-libidinal, c'est-à-dire contre le plaisir, anti-hédonique, anti-vie. Il provoque un gel plutôt de l'imaginaire familial, de la circulation des fantasmes dans chacun des membres et dans la famille. Donc ce caractère anti-libidinal est quelque chose d'extrêmement important avec des productions, des dangers, par exemple l'apparition de dangers tels que redouter si le secret est révélé, que la famille va disparaître, qu'elle va se casser, qu'un des membres va se suicider, qu'un des membres va être meurtrier, se faire tuer, etc.
C'est important pour, je crois, au niveau relationnel. Si je peux vous prendre un exemple, vous montrer comment un secret peut avoir des répercussions sur les générations ultérieures. Si on prend par exemple l'exemple d'une grand-mère qui se suicide et on ne révèle pas à ses petits-enfants ce suicide. Donc les parents vont dire la grand-mère est morte sans donner la raison de la mort. Les enfants, donc, vont tout de suite sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau de la mort de la grand-mère. Et donc, ils vont prendre l'habitude de ne pas parler de la mort de la grand-mère. Mais pour pas parler de la mort de la grand-mère, pour pas réveiller quelque chose chez le parent, l'enfant ne va plus parler de la grand-mère. Et puis, puisqu'il ne parle plus de la grand-mère, il ne va plus parler du grand-père non plus. Donc, il ne parlera plus des grands-parents. Donc, il ne pourra plus non plus parler de... à sa mère, par exemple, comment c'était quand tu étais petite, est-ce que tes parents te disaient si, puisqu'il ne peut plus parler des grands-parents, il ne peut plus parler de la relation des parents avec les enfants, voilà, ou des enfants avec les parents. Et ensuite, il ne va plus pouvoir parler de sa relation à ses parents. Et quand il deviendra adulte, il ne pourra pas parler non plus de relations parents-enfants. Et ça fait tache d'huile, comme ça. À partir d'un événement ponctuel, un suicide, tout, ça fait un phénomène de tache d'huile. C'est toutes les relations parents-enfants qui seront interdites d'expression.
C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte d'autocensure qui s'installe partout, en fait.
Voilà. Et donc, ensuite, c'est ce qui a été appelé une stagnation relationnelle. Et si il n'y a plus de communication entre enfants-parents, mais c'est toute la vie de l'enfant qui ne peut pas s'exprimer. Donc voilà pourquoi c'est très important de révéler le secret. Donc par exemple, ce secret de suicide, si c'est difficile et douloureux pour le parent concerné, comme proposait Françoise Dolto, elle disait que à l'enfant d'aller demander à quelqu'un d'autre. Bon, mais qu'il y ait quelqu'un qui le dise.
Alors moi, je suis très embêtée parce que je suis la seule et ma plus jeune sœur le sait, mais pas de la même façon que moi. C'est-à-dire que moi, il faudra qu'à un moment donné, je me mette au clair avec ma plus jeune sœur. Mais elle n'a pas d'enfant, par exemple. Si on considère que ça se transmet par de mère à fils ou à fille, c'est à moi que revient cette tâche. Alors, effectivement, pour moi, c'est une réalité de femme. C'est-à-dire, j'arrive pas à me dire qu'un jour, je vais raconter ça à un de mes deux fils, ils vont rien comprendre. Et en même temps, je vais devoir le faire. Et là, je ne sais pas, c'est l'inconnu pour l'instant. C'est que peut-être que ça va se faire très naturellement, qu'à un moment donné, cette histoire qui paraît être qu'une perfidie de femme, parce que je crois qu'il y a quelque chose d'un peu perfide dans cette histoire, un homme pourra l'entendre et peut-être le réécrire d'une certaine façon pour que le passage... Parce que là aussi, il y a une réécriture sur le passage, c'est évident. Je pense que ma mère ne l'a pas entendu de la même façon que moi et ma grand-mère non plus.
Les histoires d'Arlé, les histoires d'Arlé, les histoires d'amour finissent mal. Les histoires d'amour finissent mal en général. Les histoires d'amour finissent mal en général.
Oui, alors il faut certainement opposer au secret pathologique familial, le secret normal, qui appartient, qui est d'un registre individuel, alors comme le nom l'indique, le secret de famille appartient à un registre collectif, familial, incestueux, tandis que le secret normal est un secret qui appartient à un registre individuel et qui est d'ordre oedipien. C'est-à-dire qu'uniquement, il se situe uniquement dans un espace fantasmatique. Et dans cet espace fantasmatique oedipien, les origines ne sont pas brouillées. Et ce secret abrite le développement des fantasmes que les psychanalystes appellent des fantasmes très spécifiques décrits par Freud, d'une très haute importance pour la structuration de l'individu, les fantasmes originaires, dont la scène primitive, et qui abrite donc le développement de la vie fantasmatique et des processus de symbolisation.
Vous disiez une fois que le secret du secret, c'était la dimension incestueuse.
Ah oui, que derrière le secret de famille, en règle, il y a une dimension incestueuse, et c'est peut-être ça la découverte, un des éléments majeurs de la recherche technique de l'abord des familles avec secret, c'est que ce n'est pas l'existence, nous tenons compte de l'existence du secret, mais son contenu, même s'il ne nous est pas révélé, en règle il nous est révélé d'ailleurs, à un moment. Le plus souvent, il y a une façon de révéler habituelle, c'est que lors de la première consultation, le secret est déposé à l'un des membres de l'institution. Et que progressivement, l'équipe responsable de la famille saura le secret, mais personne ne pourra en parler.
Et vous n'avez pas le droit de le révéler à celui que ça concerne ? C'est impossible ?
Ah ben, la révélation, oui, certainement que... c'est comme dans l'inceste, les psychiatres ou psychanalystes sont pris entre la peur de casser la famille, la peur de créer un meurtre ou un suicide, et le désir de ne pas être complice d'une organisation qui vient brouiller la révélation la connaissance des origines de l'enfant.
C'est piégé, quoi.
Donc c'est très piégé. Voilà, c'est un terrain très miné. Et comme le terrain de l'inceste, d'ailleurs. Je crois qu'on vit dans ce travail des émotions très proches, même si l'inceste paraît assez lointain, même s'il s'agit uniquement d'un climat incestuel, le vécu se rapproche énormément des peurs et des désirs que l'on peut éprouver en présence d'un travail avec une famille incestueuse. C'est-à-dire le désir de libérer, de créer un espace protégé à l'enfant et la peur de faire de la casse.
Moi, je pense, dans mon cas, et en lisant les autres histoires, j'ai tendance à dire que c'était pareil dans les autres cas, que quand on invente quelque chose comme ça, c'est très égoïste, c'est pour se préserver soi et non pas pour préserver l'enfant. J'ai pas lu dans ces histoires une seule histoire dont je me suis dit « ils ont fait ça ». Pour, à tort ou à raison, mais pour que l'enfant qui était concerné soit plus heureux, soit moins coincé dans quelque chose qu'il ne pourrait peut-être pas vivre. Mais c'est toujours eux-mêmes qu'ils essayent de protéger. Ils essayent de se protéger par rapport à l'image qu'ils veulent donner, certainement pas par rapport à celle qu'ils ont d'eux-mêmes quand ils se regardent dans leur glace, par rapport à celle qu'ils veulent donner au niveau d'une société. Et je crois que ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'au début, on invente cette histoire-là, en gros, pour convaincre les voisins. À force de la raconter aux voisins, on arrive à convaincre des gens qui sont dans une sphère un petit peu plus éloignée. Et à force de la raconter à autant de gens, elle devient vraie, l'histoire. C'est-à-dire qu'ils finissent par être convaincus que c'est comme ça que ça s'est passé. Et disons que pour eux, ça fonctionne.
En ce moment, il y a des pères qui ne veulent pas dire à leurs enfants qu'ils sont au chômage. Et c'est trop, j'ai un exemple précis, il ne supporte pas cet homme-là de dire à son fils qu'il est au chômage. Alors l'enfant ne dort pas, l'enfant présente beaucoup de symptômes et le père fait semblant d'aller travailler. C'est un secret aussi, le chômage.
Oui, c'est toutes sortes de secrets, c'est pas seulement le secret. Il y a le secret d'origine, de filiation, le plus spectaculaire en fait. Après, il y a tout un ensemble de choses comme ça qui sont cachées, comme des morts, comme des meurtres, du chômage, enfin, toute chose finalement qui n'est pas avouable.
Oui, ou choses douloureuses. Des choses qui pourraient. Il y a tout ce qui comporte une honte ou une culpabilité, ça c'est certain. Mais aussi des malheurs, des choses très douloureuses qui sont indicibles.
Et vous avez des enfants ?
Moi, j'ai deux enfants.
Et vous leur en avez parlé ?
Très peu.
Ouais.
Très très peu. Je sais que l'aîné est tombé sur le livre et l'a lu. Elle ne m'en a pas parlé.
Ah oui,
donc, je n'en ai pas parlé non plus. La seconde, non. Elle n'a pas eu l'occasion. Peut-être qu'un jour, elle l'aura. Mais je ne pense pas qu'elle se soit rendue compte. Et par contre, l'aîné, oui.
Dans de nombreuses histoires de Henry James, il y a donc des intermédiaires qui sont des critiques ou des revenants, des fantômes ou des enfants qui permettent d'accéder plus ou moins au secret. Et en particulier dans une nouvelle qui s'appelle « Ce que savait Maisie », c'est une enfant qui nous conduit vers ce secret peut-être introuvable.
James raconte qu'à propos de Maisie, c'est une histoire entendue, une histoire de divorce. C'est-à-dire que devient l'enfant quand les parents se séparent, et un truc assez banal, une histoire, enfin, un événement anecdotique, sauf qu'il le complique d'un nouveau couple formé entre le père de Maisie et sa nouvelle femme. La mère elle-même rencontre un autre homme. Ces deux autres personnages se rencontrent à nouveau. Il y a tout un jeu de puzzle qui se met en place. Et l'enfant est à la fois le révélateur et puis comme une balle de billard, il va d'un personnage à un autre et chaque fois il en éclaire une face singulière.
Et c'est elle qui va vers la révélation.
Oui, alors ce qui est intéressant, ce que vous disiez à propos du savoir, c'est que plus elle en apprend, parce que c'est un tour de force, hein, c'est écrit quand même de son point de vue à elle, donc on n'en sait pas plus que ce qu'est supposé savoir une enfant qui doit avoir, je ne sais plus moi, une dizaine d'années. Hein, ça, c'est remarquable. Donc, quand on apprend, par exemple, une série d'adultères, on le suppose à travers le regard de l'enfant qui a rencontré quelqu'un. Nous, on a une lecture qui est un petit peu par-dessus l'épaule de Maisie, parce qu'elle rapporte des choses sans les expliciter. Mais on se dit, bon, ben, si la maman de Maisie a rencontré le capitaine un tel à telle occasion, c'est sans doute qu'elle a une liaison avec lui. Mais l'enfant n'a pas les moyens de tirer toutes les conséquences de ce qu'elle peut découvrir. Donc on a, nous, un pas de lecture au-delà à fournir chaque fois. Et plus elle apprend comment s'organisent les relations, les affects, les haines, comment elle est l'enjeu elle-même, soit d'un rapprochement entre des protagonistes, soit au contraire de séparation, plus elle apprend et moins elle comprend. Et à la fin, c'est quand même, comme beaucoup de nouvelles de James, c'est très... Il y a un jeu qui est très fort, mais ça finit d'une façon terrible, parce que elle est renvoyée à une solitude encore plus grande qu'à l'origine, et tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle savait, comme dit le titre, finalement ne lui sert plus qu'à être encore plus démunie, encore plus abandonnée, encore plus dans la dérédiction. Elle est dépossédée par le secret qu'elle a découvert. C'est pas un plus, c'est toujours un moins. Et quand le secret apparaît chez James, c'est toujours un moins.
Ça, c'est plutôt de l'ordre de la perte et de plus de solitude, ce que vous dites, et plus de tragédie que d'aller vers un éclaircissement ou un bonheur possible,
voilà.
En fait.
C'est peut-être une conception du secret qui est originale, en ce sens que ce ne serait pas un objet qui est caché, Donc il faudrait franchir un certain nombre d'obstacles pour le découvrir ou procéder à un décryptage ou à des interprétations qui permettraient comme ça de décoder, d'arriver comme avec un message sibyllin à reconstituer un texte originel qui serait le contenu du secret. Au contraire, là, plus on s'approche du secret et plus le sujet se dérobe. C'est plus une question d'objet caché, mais c'est d'un sujet en moins. Et donc, il y a un moment donné où les personnages, et le lecteur aussi, ont plutôt envie de freiner parce qu'ils sont au bord d'un précipice, au bord de disparaître, ou en tout cas de perdre sens au moment où ils perdent pied.
On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous cache tout, on nous dit rien.
Albert Gandilon tenait avant-guerre une des plus célèbres galeries d'art de la rive droite. C'était un homme d'ordre qui avait si méticuleusement organisé sa vie qu'elle n'avait jamais laissé place au moindre hasard ou à la moindre surprise. Chaque matin, à 10h, il quittait son grand appartement de l'avenue de Ségur et se rendait à la galerie, puis, comme il était extrêmement attaché à sa mère, tous les jours, vers midi, il allait lui rendre visite. Il retournait ensuite à ses occupations professionnelles et rentrait chez lui le soir, à 7h exactement, retrouver sa femme Éléonore et ses deux enfants Frédéric et Céline. Chaque dimanche, il s'en allait passer la journée à Auteuil, chez des amis, disait-il. Il n'y avait jamais eu de faille dans cette extraordinaire organisation. Nous sommes en 1936, Frédéric a 12 ans et sa sœur Céline 10 ans.
20 ans plus tard, en 1956, juste après la mort d'Éléonore, la famille Gandilon s'installe rue du Cherche-Midi, où elle demeure encore. Au premier étage, Albert Gandilon et sa fille Céline, qui restera toujours auprès de lui, dévouée, aigrie et taciturne. Au second, Frédéric et sa femme. Il vient en effet de se marier, mais il a dû renoncer à l'idée d'avoir des enfants. La vie continue, toujours aussi banale et organisée. Soudain, au mois de juillet, Albert annonce qu'il a été invité en vacances au bord de la mer. Il demande même à Frédéric de le conduire à la gare et de venir l'y rechercher une quinzaine de jours plus tard. Stupeur, c'est le premier déplacement qu'on lui voit entreprendre. Frédéric accompagne donc son père à la gare d'Austerlitz et, à sa demande, le laisse à l'entrée des grandes lignes. Mais la curiosité, naturellement, le fait revenir sur ses pas. Et, en se dissimulant dans la foule, il le découvre en compagnie d'une inconnue, une jeune femme aux cheveux blonds vénitiens. Il semble intime. Elle l'embrasse, souriante et très à l'aise, et ils prennent le train pour la Côte Basque.
Nous sommes maintenant en 1966. Frédéric et sa femme sont au théâtre quand, à l'entracte, ils aperçoivent Albert Gandilon en compagnie de deux petites filles blondes à qui il parle avec animation. Lorsqu'il voit son fils et sa belle-fille, il leur fait un vague signe, et leur tourne ostensiblement le dos. Frédéric est stupéfait. Qui sont ces petites filles? Il se pose des questions. Bien que sa sœur et lui ne se fassent plus depuis longtemps de confidences, il va trouver Céline pour en parler. Elle, qui vit depuis 30 ans avec son père, elle a eu le temps de rassembler des indices. La foule des détails auxquels, isolément, on ne prend pas garde, mais qui, réunis, ont une cohérence. Elle a regardé, surveillé, épié, espionné peut-être. Elle sait. Elle le révèle maintenant à son frère. Frédéric doit se rendre à l'évidence. Depuis 30 ans, son père a une autre vie. Et il voit apparaître en clair-obscur, comme un double de la sienne, une autre famille.
On a Il y a 2 mois à peu près, vous avez raconté quelques secrets, deux secrets de famille, on peut dire, et des éléments de votre vie à François Vigouroux qui vous écoutait attentivement. Et donc on a essayé de reconstituer pour la radio une sorte d'histoire de secrets de famille, comme dans le livre de François Vigouroux, Le secret de famille. Et donc cet enregistrement avait duré à peu près 1h30, 2 heures. Et ça, je voulais savoir un petit peu 2 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que vous êtes parti, vous avez livré toutes ces informations. Vous êtes plongé dans votre vie et après, on ne s'est plus revu.
Je vous avais raconté une histoire de filiation, en fait. C'est-à-dire que, je rappelle comme ça, mon père ne savait pas qui était son vrai père. Et moi, qui suis sa fille, je ne savais pas qui était ma sœur, du moins ma demi-sœur. Donc, il y a eu quand même, non pas le même secret, mais un secret du même ordre qui a été transmis par celui qui en avait déjà subi les conséquences. Et alors ça m'a quand même... le raconter m'a causé un petit choc parce que je me suis dit, cette transmission est si cohérente que normalement, la troisième génération, pourquoi en serait-elle épargnée ? Et puis, je me suis rendu compte, déjà en ce qui me concerne, que ce secret se transmet par les enfants. C'est l'enfant qui était mon père qui a été touché par le secret. C'est l'enfant qui l'a produit qui a été l'objet du secret. Et moi, je n'ai pas d'enfant. Et donc, je me suis demandé si, en fait, je n'aurais pas le secret que j'aurais transmis, si j'en avais eu un à transmettre, ça n'aurait pas été de chercher quel était le vrai père, celui qui se cachait, et puis une fois que je l'aurais trouvé, je l'aurais sans doute dissimulé. Je ne l'aurais pas dit.
C'est une histoire compliquée. C'était 2 heures d'entretien dans lesquelles il y avait plein d'allées et venues, où l'exploration portait dans une direction, puis dans une autre, un petit peu de façon très décousue, en laissant parler. On s'est engagé sur des fausses pistes, c'est-à-dire des endroits où il ne se passait rien. Et puis, au fur et à mesure que l'entretien se déroulait, j'ai vu apparaître des ébauches d'enchaînement, c'est-à-dire de relations entre les choses. Et ce qui me reste maintenant, c'est, cette histoire, je l'appellerai, c'est la vie en double. C'est quelque chose où tout est toujours doublé. Et sur les 3 ou 4 générations sur lesquelles ça se base, on aperçoit à l'origine un enfant qui a en fait 2 pères, un père légitime et un père caché, qui est le père réel, qui a lui-même 2 filles de son mariage, mais qui vit aussi presque parallèlement avec une autre femme, c'est-à-dire qu'il a 2 foyers.
Et 2 familles, oui, c'est ça.
2 familles, ouais. Et dans ces 2 familles, il y a de part et d'autre 2 enfants.
2 filles.
Et qui sont en plus 2 filles. Et une de ces filles, celle qui nous raconte l'histoire, nous explique, au fil de sa narration, qu'elle-même a une vie qui est, et elle emploie le mot à un moment, initialement même, ma vie est splittée, dit-elle. Ça veut dire ma vie est double, ma vie est clivée.
Elle est clivée,
elle est coupée en deux comme une ardoise. Et elle explique, en parlant d'elle, et elle en est même surprise, puisque c'est pour elle, par moments, des petites révélations, mais minuscules, ça ne va pas bouleverser les choses, mais c'est émouvant, qu'elle-même a des choses, elle est à la fois le geste, le corps, et en même temps le mot, qu'elle a des relations avec les hommes qui sont à la fois extrêmement violentes et en même temps qui se révèlent impossibles ou dramatiques et difficiles, qu'elle est toujours entre deux, plusieurs choses, et qu'elle, peut-être qu'elle répète aussi quelque chose qui est là. C'est-à-dire que le secret qui est à l'œuvre là-dedans, c'est peut-être le secret de cette origine, c'est-à-dire de ce père qui a 2 pères et qui n'a lui-même jamais fait le choix entre les 2 femmes qu'il a eues. Voilà, ça c'est une explication.
Et vous vous demandez ce qui se passe pour cette personne comme ça qui s'en va, une fois qu'elle vous a livré 2 heures de sa vie, finalement, oui. Très intime, puisque vous posez des questions très précises, même de temps en temps.
Oui, qui sont... qui sont précises, enfin, qui sont en même temps amenées normalement,
mais,
oui,
voilà, qui arrivent
normalement un jour. J'ai envie de dire aussi que on ne fait pas ça par hasard, là non plus, et que quelqu'un qui est sollicité pour et qui je parle, est consentant. Ça rentre, donc ça fait partie de sa vie, comme ça fait partie de la mienne.
Vous avez raconté cette histoire à votre père, et est-ce qu'il vous a donné son accord ?
Évidemment, oui, je l'ai raconté à mon père, et il m'a donné son accord. Mais en ayant cette conversation avec lui, je me suis rendu compte que j'avais déjà romancé énormément de choses. J'étais pourtant absolument persuadée d'avoir été d'une rigueur extrême dans la délivrance de ce récit. Mais quelque part, comme on dit, entre sans doute la façon dont ma sœur m'a parlé de certaines choses, dont ma mère m'a transmis par exemple l'histoire de la découverte de la photo du vrai père, je crois qu'il y avait déjà du roman. Et que, bon, ça c'est un grand classique, les choses n'ont cessé de se décaler. Moi, vous le racontant, et exactement pour la raison dont on vient de parler, c'est-à-dire que je fais de la fiction, forcément. En vous racontant ça, j'ai encore décalé. Mon père a remis les choses en place sur 2-3 éléments qui m'ont extraordinairement surprise. C'est-à-dire que je contestais violemment qu'il puisse lui détenir la vérité. J'étais absolument persuadée que c'était moi qui avait fait le juste récit. Ce qu'il y a de très marrant, de très drôle dans les secrets de famille, c'est que ça crée des héros et des héroïnes à bon compte. C'est-à-dire, comme vous le disiez, ce n'est pas tant la révélation du secret qui est important, mais les épisodes et les incarnations du secret dans les êtres qui sont autour, et comment cette chose-là, c'est le ballon de rubis, comment ça se transmet, c'est le ballon de rubis et le Graal, enfin, moi, je veux dire, c'est incroyable, tout le monde en est littéralement transfiguré, hein, une aura particulière. Et je pense, par exemple, à mon grand-père, celui que j'ai toujours appelé mon grand-père, sans savoir, jusqu'à ce jour précis où j'ai su, sans savoir qu'il n'était pas mon grand-père. Et c'était un homme admirable, de toute façon, j'en suis sûre. Mais, si vous voulez, le vrai héros dans le récit que je vous ai fait n'est certainement pas le mystérieux et lointain officier de Spahi. Qui n'était pas de Spahi, je l'ai appris après par mon père. J'ai totalement inventé le Spahi, paraît-il. Donc j'étais totalement dans Barbara Cartland, moi, déjà. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que ça n'est pas l'officier lointain, parti, amant d'une nuit et mort de l'épidémie de grippe espagnole, ça c'est vrai, pendant la guerre, qui est le héros. Mais très certainement, cet homme, mon grand-père, dont on se dit, mais a-t-il su, n'a-t-il pas su, est-il revenu, est-ce un merveilleux naïf à la Pagnole, est-ce un sage, est-ce un amoureux fou qui sait aimer et qui sait garder le secret, qui sait quoi en faire de ce secret. Il le réinjecte totalement dans sa vie, il en fait une chose parfaitement, il en fait un enfant, il en fait un amour, il n'en fait pas une vague histoire de claque et va-t'en, je veux plus te voir, digne du fait divers le plus minable de nos quotidiens minables. Non, il en fait la fondation d'une famille, une mythologie presque. Mais tout simplement, quoi. Je veux dire, avec une stature extraordinaire. C'est lui le héros, quoi.
Secret de famille, avec Mireille Guerre, comédienne, François Vigouroux, auteur de Le secret de famille aux éditions PUF, paru en 1993, Christine Rodez, Hervé Gauville, auteur d'un essai sur Henry James, Alette Naquet, psychothérapeute, Jean-Pierre Caillot, psychiatre et psychanalyste. Les textes étaient lus par Jean-Louis Jacopin et Pierrette Destanque. Enregistrement et mixage, Agnès Warnier, Étienne Roulette. C'était une émission de Blandine Masson, Réalisation Jean-Claude Loiseau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 mai 1995.